Il est 7h du matin et nous sommes le mardi 11 février. Soyez donc les bienvenus sur Inter. Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, une matinale spéciale handicap sur Inter, 15 ans après la grande loi de 2005. Conférence nationale présidée aujourd'hui par Emmanuel Macron. Emploi, formation, accessibilité. Le chef de l'État veut rendre la vie des handicapés plus facile. À 7h15, le zoom sur les crèches qui accueillent des enfants handicapés. À 8h20, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, et Jérémy Borois, qui préside, lui, le comité national consultatif des personnes handicapées. Ils sont donc les deux invités du grand entretien. Question témoignage dès maintenant au 01 45 24 7000. Autre titre, Laurence.
La Corse, placée en vigilance orange avec des rafales qui vont dépasser les 220 km/h. Une tempête Kira qui attise les départs de feu. Coronavirus ou l'effet papillon, la Chine consomme moins, le prix du baril de pétrole est en baisse. Le drame des stations de ski de moyenne montagne, réchauffement climatique et manque de neige après les Pyrénées et les Vosges, les Alpes sont aussi touchées. Certaines stations n'ont pas encore pu faire marcher leur remontée mécanique. La nuit au musée, qui n'en a pas rêvé, le Louvre propose de passer 3 nuits gratuitement avec Léonard de Vinci fin février.
Et les autres invités, l'autre invité d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
Les écologistes auront peut-être le vent en poupe au municipal, mais parlent-ils tous la même langue? Des dissensions apparaissent entre la ligne Jadot et la ligne Bayou, le nouveau patron du parti. On reçoit justement Julien Bayou à 7h50 et pas à 16h50.
Exactement. À tout à l'heure, Léa, dans 48 minutes.
France Inter. Il est temps de taper du poing sur la table, disaient il y a quelques jours les associations de défense des personnes handicapées. Transport, scolarisation, aide à l'emploi, logement, trop d'inégalités selon les territoires. Une loi qui n'est pas souvent appliquée. Pourtant en France, 12 millions de personnes vivent avec un handicap. Matinale spéciale handicap sur France Inter, à quelques heures de la conférence nationale présidée par le chef de l'État. Symboliquement, l'événement a été programmé exactement 15 ans après l'adoption sous le président Chirac d'une loi majeure pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées. Mais ce matin, Cyril Gradiani, de nouvelles annonces sont attendues. Elles seront censées améliorer la vie quotidienne des handicapés.
En 2017, Emmanuel Macron a fait de l'inclusion des personnes handicapées l'une des priorités du quinquennat, notamment en simplifiant les démarches administratives dénoncées par les associations comme étant trop complexes. Parmi les mesures qui doivent être annoncées ce matin, la création d'ici l'an prochain d'un numéro d'appel unique, le 360, permettra aux familles de sortir de l'errance de guichet en guichet. Les maisons départementales des personnes handicapées recevront 50 millions d'euros supplémentaires sur les 2 ans qui viennent pour pouvoir répondre plus rapidement aux demandes des familles. Le gouvernement entend également lutter contre les départs contraints vers des établissements spécialisés en Belgique. En effet, 500 adultes chaque année quittent ainsi la France, faute de solutions près de chez eux. Concernant l'accès à l'emploi, le gouvernement s'engage à augmenter de 50% le nombre de personnes handicapées en apprentissage. Enfin, l'école doit être un pilier de cette conférence, avec comme objectif qu'aucun enfant à la rentrée prochaine ne se retrouve sans solution de scolarisation.
Cyril Gradiani, il y a les handicaps visibles, mais aussi ceux qui ne se voient pas. Et ces derniers représentent pourtant 80% des 12 millions de personnes concernées. Un handicap invisible, c'est un traumatisme crânien, une surdité, des troubles bipolaires ou des problèmes de dos, comme l'explique Aminata François. Elle suit une remise à niveau professionnel.
Les handicaps les plus lourds à porter sont les handicaps invisibles. Moi, je suis en situation de handicap, ça se voit pas du tout. J'ai mal au dos, j'ai des cervicalgies et tout. Marcher longtemps, c'est pénible pour moi. Et même travailler sur l'ordinateur pendant longtemps, c'est fatigant. Mais je me dis, dans la vie, il ne faut rien abandonner. Le marché du travail aujourd'hui, ils essayent. Mais je pense qu'il y a du boulot encore à faire là-dessus. Mais c'est aussi à nous aussi de prouver à ces entreprises que le fait de nous embaucher, ce n'est pas une perte. On a des capacités. Ce n'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on ne vaut rien non plus.
Aminata François, handicapée, interrogée par Léa Dubost. Bilan complet de cette loi 15 ans après, à retrouver sur franceinter.fr. Un nouveau bilan de l'épidémie de coronavirus. L'OMS annonce qu'il a franchi les 1000 morts en Chine. Et s'il était un exemple pour comprendre le principe de l'offre et de la demande, l'épidémie est une parfaite illustration. La Chine, deuxième consommateur de pétrole au monde, premier importateur, tourne au ralenti. Moins de demande en pétrole, donc chute des cours de l'or noir et par conséquent, les prix qui baissent à la pompe en raison de ce coronavirus. Reportage de Sonia Gobry dans une station-service près de La Rochelle.
Jimmy voyage en camping-car avec sa femme. Il est donc très attentif au prix du carburant et il a le sourire lorsqu'il regarde le panneau des prix de la station essence. 1,33€ le litre de gasoil.
Avant, on était plus sur les côtés de 1,40€, donc c'est déjà pas mal, quoi.
Devant lui, Florent vient de faire le plein. Il en fait un par semaine, ce qui lui revient généralement à...
Au prix fort, c'est 70€. Au prix un peu moins fort, comme en ce moment, c'est 60€.
Les automobilistes sont ravis, bien sûr, de cette baisse des prix, mais peu savent que c'est une conséquence indirecte du coronavirus.
C'est pas vrai.
Ah oui ? J'aurais jamais pensé à ça.
Je sais pas s'il y a vraiment un lien de cause à effet. Si ?
Ah non, ça je savais pas. J'ai du mal à voir le rapport.
Stéphane ne le voyait pas non plus au début lorsque ses amis lui ont expliqué.
On m'a dit que c'était suite au problème qu'il y a en Chine et tout. Comme les Chinois sont confinés, ils consomment plus. Il n'y a plus de consommation dans leur pays, donc du coup ça baisse. Moi je suis content que l'essence baisse. Après, bon, que les Chinois sont confinés à cause du fameux problème de santé, c'est plus embêtant.
Le cours du baril de pétrole a baissé de 20% depuis janvier.
Sonia Gobry de France Bleu, La Rochelle. L'or noir qui chute et l'or blanc qui se fait de plus en plus rare. Cet hiver est exceptionnellement doux et les stations de ski doivent faire face au manque de neige. Leurs économies sont en péril. C'est le cas dans les Pyrénées, dans les Vosges, mais aussi dans les stations de moyenne montagne des Alpes. À 20 minutes de Grenoble, 1000 mètres d'altitude, la station de Sapé en Chartreuse n'a pas pu ouvrir ses 6 pistes de ski alpin depuis le début de la saison. C'est le reportage de Sébastien Sabiron.
On est au pied des pistes de ski, plutôt des prés en ce moment, malheureusement pour nous.
13 degrés au thermomètre de faux air de printemps et pas du tout de neige. Laura Toc gère le camping et le gîte communal.
Depuis la dizaine d'années que je suis dans la région, c'est la première fois que je vois un mois de février avec aussi peu de neige. Les téléskis ne tournent pas, c'est un peu désespérant, ouais.
Dans le gîte, un seul des 3 appartements est occupé par Cécile et ses enfants.
On vient quand même pour le ski et pour la neige, mais bien sûr, le climat a changé, la montagne a changé aussi, il faut pouvoir s'adapter. Ça permet de découvrir aussi un petit peu la région, d'aller un petit peu plus loin, sortir de sa zone de confort finalement.
Même fermée, la station coûte plus de 30 000 euros par an à la commune. Dominique Escaron, le maire du Sapé en Chartreuse.
Ça représente quand même une part qui est non nulle pour nos petites communes de montagne. C'est ce qui fait que de plus en plus de petites stations disparaissent. On fait qu'en perdre, on n'en gagne pas.
Alors il faut rationaliser les coûts et lorsqu'il y en a, préserver la neige un maximum. Dominique Escaron.
Par exemple, on n'ouvre plus systématiquement en semaine, on n'ouvre que pendant les vacances scolaires de la région grenobloise, on embauche les gens que quand on ouvre la station. Enfin, vous voyez, s'il n'y a pas de neige, finalement, il n'y a que le chef d'exploitation qui est rémunéré pendant quelques mois. Puis on a l'assurance absence de neige.
Comme beaucoup d'autres, la station tente aussi de se diversifier. Accrobranche, vélo, luge d'été tractée par des téléskis. Des activités malgré tout moins rémunératrices que le ski. Au Sapé en Chartreuse, Sébastien Sabiron, France Inter.
Il est 7h08, la tempête Kira, Laurence, frappe désormais la Corse.
Des vents de 219 km à l'heure ont été enregistrés hier soir au Cap Corse. Transport scolaire suspendu, université fermée, trafic aérien perturbé, mais les secours doivent maintenant se battre aussi sur le front des incendies. Après celui démarré hier au Cap Corse, un deuxième s'est déclaré ce matin au sud de Bastia. Bonjour Maxime Beckmer. Cet incendie est d'autant plus inquiétant que les Canadairs restent au sol en raison des conditions météo.
Ben oui, écoutez, la tempête Kira combinée à la folie des incendiaires ici bien cause de gros soucis en Corse, en particulier dans la région de Bastia. Plusieurs incendies sont en cours, l'un depuis hier soir, 23h, sur la commune, depuis la commune d'Olmeta di Tuda. Le bilan provisoire, 200 hectares de végétation brûlée et une situation plus que périlleuse selon les pompiers puisque le feu descend vers la plaine et vers l'agglomération de Biguglia, c'est-à-dire qu'il pourrait menacer d'ici quelques heures, quelques minutes, des habitations et des personnes. Donc toutes les précautions sont prises, des moyens importants, déjà 120 pompiers sont engagés sur le terrain et les moyens seront encore renforcés, notamment par des colonnes venues du continent. La difficulté, vous le disiez, c'est que les moyens aériens ne peuvent intervenir aujourd'hui en raison du vent qui souffle encore très très fort et que la vigilance orange sera maintenue jusqu'à au moins 21h en Haute-Corse comme en Corse du Sud. Aujourd'hui, pas de transport scolaire. La plupart des établissements scolaires sont d'ailleurs fermés. Et puis la circulation aux alentours des lieux des incendies est bien sûr fermée.
Maxime Beckmer de France Bleu fréquente Samora. Aux États-Unis, après le cafouillage de l'Iowa, la deuxième phase des primaires démocrates débute ce mardi. Cette fois, les candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle s'affrontent dans le New Hampshire, petit état d'1,3 million habitants. On verra donc si Pete Buttigieg, qui a remporté le premier scrutin à la surprise générale dans l'Iowa, consolide sa position dans cet état du nord-est des États-Unis. Mais dans le New Hampshire, Bernie Sanders est le grand favori. Il y a 4 ans, il avait remporté plus de 60% des voix et son dernier rendez-vous hier soir a rassemblé, dernier meeting a rassemblé beaucoup, beaucoup de monde, Isabelle Raymond.
Bernie Sanders s'est offert des chauffeurs de salles de luxe pour son dernier meeting dans le New Hampshire. De quoi attirer beaucoup de jeunes, mais pas que, et parfois venus de très loin. Ainsi, Jesse, 37 ans, arrive du Texas.
J'ai
pris 2 avions aujourd'hui pour voir Bernie et les Strokes. Ça fait un long voyage, mais ça vaut le coup, c'est sûr. Surtout que Bernie Sanders a chargé l'élu démocrate sans doute la plus populaire auprès des jeunes, le soin de l'introduire sur scène. Alexandria Ocasio-Cortez, 30 ans, élue démocrate de New York et metteuse d'ambiance hors pair. Parmi les candidats, demande-t-elle, n'a jamais accepté l'argent des grandes entreprises. Qui le premier a proposé que la santé soit un droit pour tous? Bernie Sanders peut maintenant commencer son discours.
In case you haven't noticed, there are a lot of people here tonight.
Il y a 3 fois plus de monde ici ce soir, dit-il, que dans tous les autres meetings démocrates. C'est probablement vrai. Durham dans le New Hampshire, Isabelle Raymond, France Inter.
La nuit au musée, parce que Léonard de Vinci le vaut bien. Le musée du Louvre va ouvrir ses portes non-stop les nuits du vendredi 21, samedi 22, dimanche 23 février. 3 nocturnes gratuites, mais il faudra tout de même s'inscrire et réserver sa place dès aujourd'hui. Une initiative exceptionnelle, Isabelle Pasquier.
Vous avez rêvé de passer la nuit avec la Sainte-Anne, le Saint-Jean-Baptiste, la Belle Ferronnière ou la très sexy échevelée de Léonard de Vinci au Louvre? Eh bien, même si vous ne vous appelez pas Jay-Z ou Beyoncé, vous allez pouvoir réaliser ce fantasme et gratuitement à l'heure où Paris se rend en sommeil profond. Et c'est Jean-Luc Martinez, le président du Louvre, qui a eu cette idée extravagante.
À exposition exceptionnelle, dispositif exceptionnel, on a envie aussi que à la fois ceux qui n'ont pas pu, ceux qui n'ont pas eu le temps et ceux qui l'ont aimé aient l'occasion de venir et de revenir la voir. C'est le cœur de notre mission quand même, que les gens rencontrent des œuvres d'art et que ça reste des souvenirs pour toute leur vie. Et c'est l'occasion de rappeler que le Louvre, il est fait pour tous.
Et ce sont 30 000 places supplémentaires qui vont être ainsi proposées. En tout cas, impossible d'extorquer un chiffre au président du Louvre, mais Léonard de Vinci devrait battre tous les records.
Je peux déjà vous dire que c'est supérieur à Delacroix comme fréquentation et que ce sera sans doute et pour longtemps l'exposition la plus visitée du musée.
Et pour les visiteurs de la nuit, vous aurez même droit à un petit déj près de Léonard de Vinci quand Paris s'éveillera à l'heure bleue.
Vous en rêvez, Nicolas Dulier, avec Mona Lisa.
Ah ben oui, merci Laurence Thomas.